Il est 20h à Seattle aux États-Unis, 6h à Goma, vous écoutez RFI. 5h à Paris, un nouveau journal. Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Premier revers pour Donald Trump aux États-Unis. Un juge suspend un décret mettant fin au droit du sol dans le pays. Un texte manifestement inconstitutionnel selon le magistrat. Combat toujours intense dans l'est de la République démocratique du Congo. Armée congolaise M23 soutenue par le Rwanda s'affronte autour de la ville de Sake. Reportage à suivre dans un hôpital de Goma où affluent des centaines de blessés. Les 100 plus gros narcotrafiquants français bientôt voisins. De cellules, la première prison de haute sécurité regroupant les figures du milieu ouvrira ses portes fin juillet, une promesse du ministre de la Justice qui inquiète les syndicats du secteur. Et puis sublimer les classiques du répertoire musical français, c'est le but d'une série de concerts dans tous les zéniths de l'Hexagone, 15 000 chanteurs amateurs mobilisés dans tout le pays. C'était l'une des mesures phares des premières heures du second mandat de Donald Trump, la suspension du droit du sol décidée par décret par le nouveau locataire de la Maison Blanche. Une décision elle-même suspendue hier par un juge fédéral, RFI Washington, Guillaume Nodin.
Donald Trump voulait aller vite pour montrer qu'il tient ses promesses de campagne. Ceux qui contestent sa politique le savaient et ils ont donc agi en conséquence. Ce sont plus d'une vingtaine d'États, sans compter les organisations de défense des droits civils, qui ont attaqué dès sa signature le décret visant à restreindre l'attribution de la nationalité américaine aux enfants nés sur le sol américain. Un droit pourtant assez solide a priori, puisqu'il est garanti depuis 150 ans par le 14e amendement de la Constitution. C'est un juge de Seattle, dans l'État de Washington, qui a été le plus rapide. Il bloque le décret pour 2 semaines en ajoutant qu'il a du mal à comprendre comment un membre du barreau, c'est-à-dire un juriste confirmé, peut affirmer sans équivoque que ce décret est constitutionnel. Le procureur général de l'État de Washington ainsi que des responsables d'autres États saluent cette décision. Interrogé à ce sujet, Donald Trump explique qu'il n'est pas surpris par la tournure des événements et que la Maison-Blanche va faire appel. L'affaire pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême, dont 3 des 6 juges conservateurs sur les 9 membres que compte l'institution ont été nommés par Donald Trump. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Donald Trump qui effectue ce vendredi son premier déplacement en tant que 47e président américain, voyage en Caroline du Nord puis en Californie, bastion démocrate, touché ces dernières semaines par des incendies monstres. Et avant de s'envoler pour l'Ouest américain, le locataire de la Maison Blanche a promis de lever le voile sur 3 des assassinats les plus marquants de l'histoire des États-Unis. Donald Trump a signé hier des décrets déclassifiant les archives des meurtres de John Fitzgerald Kennedy, de son frère Robert Kennedy, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King, neveu du président américain tué en 1963 et désormais ministre de la Santé de la nouvelle administration. Robert Kennedy Jr. assure depuis plusieurs années que la CIA était impliquée dans la mort de son oncle. Le nouveau président américain qui connaît son premier fan à l'international depuis le forum économique de Davos. Le président argentin Javier Milei a qualifié Donald Trump de lumière pour le monde, allant même jusqu'à évoquer un nouvel âge d'or entre 2 diatribes sur le wokisme. L'ultra-libéral Javier Milei a joué de sa proximité avec le républicain pour légitimer sa posture sur la scène mondiale. Anne Verdaguer.
Le féminisme, la diversité, l'inclusion, l'équité, l'immigration, l'avortement, l'idéologie de genre sont différentes têtes du même monstre. Dans son discours à Davos, le président argentin reprend les thèmes de prédilection de Donald Trump. Les 2 chefs d'État apparaissent comme les 2 clones d'une même pensée. Au passage, Javier Milei renforce la légitimité de son pouvoir dans une volonté de construction d'un leadership international réactionnaire. David Coppello, politologue et spécialiste de l'Argentine à l'Institut catholique de Paris.
Le programme idéologique, politique et économique de Milei est relégitimé sur la scène internationale et nationale par l'élection du président de la première puissance mondiale qui, en gros, sur une grande majorité des sujets, est d'accord avec ce que propose Milei. Milei n'est plus si marginal que ça. Quelque part, il y a aussi un challenge de Milei de se réaffirmer comme celui qui avait proposé tout ça en premier et qui maintenant a trouvé des nouveaux partenaires internationaux.
À la manière de Donald Trump, Javier Milei souhaite aussi apparaître comme un partenaire intraitable sur la scène commerciale internationale. Il a ainsi menacé de quitter le Mercosur pour sceller un accord de libre-échange avec les États-Unis et échapper aux droits de douane américains.
Anne Verdaguer. Et un peu plus tôt, Donald Trump, encore une fois depuis Davos, avait tensé les dirigeants d'entreprises européens, les menaçant de droits de douane s'ils n'installaient pas leur production aux États-Unis. Réponse de l'ambassadrice des 27 à Washington. Les Européens sont prêts à discuter avec la nouvelle administration américaine. À noter également que le président américain assure s'être entretenu la nuit dernière avec son homologue chinois. Entretien cordial selon Donald Trump, qui assure avoir demandé à Xi Jinping de peser pour obtenir la fin de la guerre en Ukraine. En République démocratique du Congo, des combats toujours intenses se déroulent dans l'est du pays, des affrontements qui se cristallisent autour de la ville de Sakia, une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 soutenu par le Rwanda. Ces combats ont provoqué d'importants déplacements de population et de nombreux blessés ont été enregistrés dans les hôpitaux de Goma. Reportage Héritier Baraka.
À l'hôpital Sebekando Show, les personnels soignants s'activent et courent pour recevoir les blessés et les stabiliser. Ces blessés arrivent en masse depuis l'aube en moto ou en ambulance. Mariam Kashindi, âgée de 22 ans, a reçu un éclat d'une bombe sur son bras en quittant Sake en urgence.
On commençait à fuir. On était devant le marché de Mubambiro. Ma fille a été touchée par une bombe et les éclats m'ont touchée. Nous fuyons le M23. J'ai trois enfants. L'un a été blessé et l'autre, je ne sais pas où il est.
Allongée sur un lit, Neema Jeannette pleure. Avec un groupe d'amis, elle a été touchée par une explosion.
Une bombe est tombée sur nous. Nous étions un groupe de femmes. Plusieurs sont mortes sur le coup. Moi, je suis la seule survivante. Je remercie le CICR pour la prise en charge à l'hôpital.
Myriam Favier, chef de la sous-délégation CICR au Nord Kivu, explique que l'hôpital Sebekando Show a été obligé d'activer les 4 blocs opératoires suite à l'afflux des blessés.
Bon, depuis ce matin, on a plus de 70 patients qui sont déjà arrivés. Ça continue d'affluer. C'est assez inquiétant.
Jusqu'à tard dans la soirée, les hôpitaux de Goma ont continué d'accueillir des blessés. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Déplacement de population toujours massif également en Cisjordanie occupée. Des centaines de personnes quittent toujours le camp de réfugiés de Jénine, 3 jours après le début d'une opération israélienne baptisée Mur de Fer. Une demande de l'armée selon les autorités locales, ce que dément Tel Aviv. L'opération présentée comme antiterroriste par Benjamin Netanyahou a déjà fait au moins 12 victimes. Il est 5h07 à Paris, la France, où une première prison de haute sécurité regroupant les 100 narcotrafiquants les plus dangereux va voir le jour dès le 31 juillet prochain. Une annonce faite par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Actuellement, 17 000 personnes sont détenues pour des faits liés au trafic de stupéfiants et à la criminalité organisée en France. Précision, Olivier Sherman.
Une première prison dès cet été, puis 2 autres créées dans les 2 prochaines années. Il y aura donc 600 narcotrafiquants regroupés dans des prisons de haute sécurité uniquement entre eux. Les plus gros narcotrafiquants du pays, qu'ils soient en détention provisoire ou en peine définitive, seront transférés à partir de mars dans un établissement rénové. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Ce sera un lieu de détention inviolable, où il sera absolument impossible de se faire livrer téléphone ou drogue, de menacer les agents ou de communiquer à l'extérieur.
Le lieu de cette prison n'a pas encore été dévoilé, mais du côté des surveillants, c'est plutôt l'inquiétude qui domine après cette annonce, comme le souligne Samuel Gauthier, secrétaire général CGT pénitentiaire.
Ça ressemble plus à une cocotte minute, regrouper des individus pour les mêmes faits dans une seule et même structure paraît à notre sens compliqué en termes de gestion, et mettra en tout cas en difficulté les personnels que nous sommes face à ce type d'individu.
Un budget de 4 millions d'euros a été débloqué pour la mise en place de cet établissement pénitentiaire qui sera entièrement rénové pour devenir un lieu inviolable.
Olivier Sherman, la France que va retrouver Serge Atlaoui, le Français condamné à mort pour trafic de drogue en Indonésie, va être transféré sur le sol français le 4 février prochain, annonce Jakarta. Il était détenu dans le couloir de la mort depuis 17 ans. Les suites du procès du financement libyen supposé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Hier, les familles des victimes de l'attentat du DC-10 Utah qui avait fait 170 morts, dont 54 Français en 1989, se sont exprimées à l'occasion d'évoquer un sentiment de trahison alors que le gouvernement de l'ex-président avait évoqué une levée du mandat d'arrêt d'Abdallah Sinoui, un ancien patron des renseignements lourdement condamné à perpétuité pour avoir organisé l'attentat. Christophe Raveno, le fils du commandant de bord, s'est adressé plusieurs fois à Nicolas Sarkozy. On l'écoute.
Je me suis adressé à lui pour deux raisons. La première, c'est que quand vous enterrez un être cher, sans même avoir l'opportunité de le voir, vous n'avez pas la possibilité de faire le deuil. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on vous remet des restes dans une boîte fermée en vous disant, voilà, ça... Alors, j'avais 12 ans, à peine, et on me dit, voilà, ça, c'est ton papa. Et maintenant, il faut lui dire au revoir. C'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez, et c'est pour ça que je me suis adressé à l'homme, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, il a une fille qui a l'âge que j'avais au moment où c'est arrivé. Et je ne souhaite pas à son enfant que dans les 20 prochaines années, on lui marche dessus comme on nous a marché dessus. En fait, je souhaitais faire résonner chez lui cette dimension humaine. C'est un avocat, c'est un président de la République, il est rompu à l'exercice. Aujourd'hui, moi je suis un enfant de 12 ans qui a grandi et qui m'adresse à un homme en lui disant « voilà, voilà la conséquence de vos actes ». Après, toute la partie liée à ce dossier, j'ai une opinion qui est la mienne, mais je me dois de respecter la présomption d'innocence. Donc, voilà, je voulais vraiment adresser le message qui était « vous avez brisé des vies ». Et ces vies-là, elles n'ont pas de prix.
Des propos recueillis par Laura Martel. Et puis, toute autre chose pour finir et cette tournée de grande envergure. Les événements 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises ont lieu jusqu'en mai dans les Zéniths de France. Des concerts qui font appel aux amateurs de chants locaux. Marius Lafont.
Ils chantent des standards de la chanson française et ils sont 15 000 choristes amateurs répartis en 27 dates dans toute la France jusqu'en mai. Matteo Hardy, l'organisateur de cette tournée, fait la division.
15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. La particularité de ce spectacle, c'est que vous allez retrouver 500 choristes locaux et des chefs de chœur locaux dans chaque ville. Avec ça, vous avez 4 musiciens et 5 chanteurs. Vous avez des chansons de Edith Piaf à Johnny Hallyday, en passant par Jean-Jacques Goldman. Et le but, vraiment, c'est de mettre en évidence le talent des choristes, en fait.
La tournée met en lumière le phénomène culturel et social des chorales en France. Une étude de 2020 réalisée par l'Université de Poitiers indique que 5% de la population pratique régulièrement le chant en groupe avec une préférence pour la chanson française.
Demain, vous croisez votre boulanger et en fait, vous ne savez pas, mais votre boulanger est choriste. C'est un mouvement au goût du jour avec des concerts assez grandioses.
Les chanteurs ne sont pas rémunérés pour participer au concert des 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. Il faut même s'acquitter de 65 euros, une mesure justifiée par les organisateurs pour éviter les désistements de dernière minute.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Il est 5h12 à Paris, 4h12 en temps universel. Et nous sommes ensemble pour une petite vingtaine de minutes qui nous emmèneront au Liban où l'Arabie Saoudite effectue son retour après des années de brouille. Notre correspondant Paul Khalife nous en dira plus. Quand la terre devient l'écrin du corps féminin, c'est tout le sujet de la nouvelle exposition de la sculptrice Prune Nouri qui se tient à Paris. L'artiste qui veut représenter la femme loin des clichés est l'invité culture de cette matinale. Et puis de la musique pour clôturer notre édition, c'est le Camerounais Shako The Great qui nous accompagnera avec son nouveau single Romantique. En attendant, il est 5h13 à Paris. Merci d'écouter RFI. Et nous prenons d'abord la direction de la Syrie, le pays qui tente toujours de se remettre de 13 ans de guerre civile qui ont conduit à la chute de Bachar al-Assad. C'était en décembre dernier. Parmi les secteurs qui ont le plus souffert de ces combats, celui de la fourniture électrique. Faute d'infrastructures, l'approvisionnement du pays est tombé à moins de 25% de ses niveaux d'avant-guerre. Résultat, des coupures qui se multiplient et une population qui ne dispose que de 2 heures de courant par jour. Le nouveau gouvernement a fait du sujet l'une de ses priorités. À Alep, reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La lumière vacille, tremble, puis s'éteint. Sous l'unique ampoule de cette pièce, le salon de la famille Alomre, ils sont une quinzaine réunis autour d'un poêle. Fatima, l'aînée, explique 21 heures passées et ici, ils n'ont plus d'électricité. Sur le toit, un panneau solaire est installé. 4 ans d'économie pour se l'acheter, pas suffisant pour avoir du courant toute la journée.
Elle dira assez ? Étudier et faire la lessive sont les deux choses les plus compliquées. Les coupures de courant sont constantes. Ici, c'est aussi très difficile d'avoir de l'eau car l'électricité n'est pas assez puissante pour faire fonctionner la pompe.
Une fois l'obscurité, chacun sort de sa poche un briquet au bout duquel une petite lumière est intégrée. C'est la seule chose qu'ils ont pour s'éclairer.
Nous l'utilisons uniquement pour que la famille puisse se réunir et se voir avec un éclairage adéquat. Nous sommes habitués, c'est comme ça depuis 2014 ou 2015, depuis le début de la guerre ici.
Dans ce quartier le plus pauvre d'Alep, toutes les familles sont concernées. Karma Jazmati, c'est son nom, a longtemps été le théâtre de violents combats entre les rebelles et l'armée de Bachar al-Assad. La centrale électrique d'Alep, l'une des plus grosses du pays, a été endommagée. Seules 2 turbines sur 5 fonctionnent. Sur les parois, des impacts de shrapnel.
C'est à cause des bombardements. La station a été bombardée.
Emma Dabouali, le manager, nous fait la visite, raconte. Cette centrale a été tenue par l'État islamique entre 2013 et 2016 avant d'être reprise par le régime.
La station a été complètement vandalisée, puis sabotée par les deux camps. L'État islamique l'a d'abord sabotée en partant, puis le régime a recommencé en arrivant. Regardez les transformateurs, regardez l'état de cette station. Tout a été volé, le cuivre, les câbles, tout.
L'objectif du nouveau gouvernement de Damas est de faire passer la production d'électricité de 1200 à 7000 MW. La compagnie nationale d'électricité a annoncé début janvier que le Qatar et la Turquie allaient envoyer 2 navires pour produire de l'électricité. Mahmoud El Ahmad, directeur général de la compagnie dans la région d'Alep.
Notre principal objectif aujourd'hui est que la situation s'améliore, afin que l'électricité soit disponible non plus 2 heures, mais 8 par jour. La deuxième étape consistera à réhabiliter les centrales électriques afin d'augmenter la quantité d'énergie disponible.
Les sanctions imposées au régime de Bachar al-Assad ont longtemps compliqué l'importation de pétrole. Pour que le courant reparte, le nouveau pouvoir en réclame la levée. D'après Mahmoud El Ahmad, de premiers accords sont en cours de négociation.
Le gaz sera acheminé par un gazoduc appelé gazoduc euro-arabe qui traversera la Jordanie. Le carburant sera lui acheminé par voie maritime depuis des pays pétroliers.
Pour l'heure, les plus importants champs pétroliers et gaziers du pays sont situés dans la région autonome kurde, échappent au contrôle du pouvoir central. L'électricité vitale pour la reconstruction du pays après 13 années de guerre sera un enjeu décisif des négociations avec les Kurdes dans les prochaines semaines. Manon Chaplin, de retour d'Alep, RFI.
À la Syrie, où le nouveau secrétaire d'État américain a appelé hier à une transition inclusive, Marco Rubio s'exprimait lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Hakan Fidan. RFI, il est 5h16 à Paris. On continue de parler diplomatie, cette fois au Liban. Le pays du cèdre qui a reçu jeudi la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères. Le prince Faisal Ben Farhan a rencontré les hauts dirigeants du pays et remis au président Joseph Aoun, récemment élu, une invitation officielle pour visiter son pays. Paul Ralifet, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. La visite du chef de la diplomatie saoudienne dans la capitale libanaise est le premier déplacement effectué par un responsable de ce niveau depuis 2010. Elle officialise le grand retour du royaume saoudien au Liban.
Les relations entre le Liban et l'Arabie Saoudite ont commencé à se refroidir en raison de l'influence grandissante de l'Iran ces 20 dernières années et le soutien apporté par le Hezbollah aux rebelles yéménites, à l'opposition à Bahreïn et aux milices irakiennes. Les rapports entre les deux pays se sont sérieusement détériorés après la séquestration dans le royaume en novembre 2017 du premier ministre libanais en exercice à l'époque, Saad Hariri. Cette affaire avait provoqué un tollé sur la scène internationale et une grave crise entre Beyrouth et Riyad. Après cet incident, le royaume s'est complètement désengagé de la scène libanaise sur les plans politiques et économiques. Il a abandonné à son sort la communauté sunnite qu'il soutenait et sponsorisait pendant des décennies.
Et avant le comeback officiel, Paul, le rôle de l'Arabie Saoudite s'était manifesté lors de l'élection présidentielle le 9 janvier et la désignation d'un nouveau Premier ministre 4 jours plus tard.
Effectivement, Riyad a joué un rôle direct pour faciliter l'élection de Joseph Aoun à la présidence. Le 8 janvier, c'est-à-dire à la veille de la séance électorale au Parlement, le royaume a dépêché à Beyrouth un émissaire, le prince Yazid Ben Farhan, qui a convaincu les députés sunnites et le bloc du Parti chrétien des forces libanaises d'appuyer la candidature du chef de l'armée au poste de président de la République. Son rôle a été décisif pour débloquer cette élection. L'Arabie Saoudite a aussi joué un rôle de premier plan dans la désignation de Nawaf Salam au poste de Premier ministre le 13 janvier. Le retour politique du royaume au Liban est en totale harmonie avec les États-Unis. Cette normalisation va permettre à terme de consolider les relations économiques et débloquer l'aide financière saoudienne au Liban. Les deux pays vont d'ailleurs prochainement signer 22 accords de coopération dans différents domaines.
Alors Riyad qui entend donc peser sur la vie politique du pays du Cèdre, mais quelles sont les raisons qui ont poussé l'Arabie Saoudite à s'engager de nouveau au Liban après un repli de 15 ans ?
Le retour du royaume au Liban est principalement dû à l'arrivée au pouvoir en Syrie de groupes islamistes proches de la Turquie. Ces mouvements sont liés d'une manière ou d'une autre aux frères musulmans, qui sont considérés par les Saoudiens comme un facteur potentiel de déstabilisation du royaume, voire une menace pour le règne de la dynastie des Saouds. En prenant le pouvoir en Syrie, la nébuleuse islamiste qui tourne dans l'orbite de la Turquie se rapproche géographiquement de la Jordanie, qui est le dernier rempart avant l'Arabie Saoudite. Le retour des Saoudiens au Liban est en quelque sorte une mesure préventive. Elle vise à contrer l'influence turque, plus particulièrement chez les sunnites libanais. Le comeback de Riyad a été facilité par le recul significatif ces trois derniers mois de l'influence de l'Iran. Après les revers essuyés par le Hezbollah dans sa guerre avec Israël et la chute du régime de Bachar el-Assad.
À Paul Ralifey, merci. Vous étiez avec nous depuis Beyrouth. Il est 4h20 en temps universel de la culture, maintenant sur RFI. À représenter le corps des femmes dans toute leur diversité, loin des canons esthétiques. C'est l'objectif affiché par l'artiste Prune Nourry qui expose ses dernières sculptures en terre à la galerie Templon de Paris jusqu'au 1er mars. Pour coller au plus près du réel, la sculptrice s'est plongée dans la vie de plusieurs femmes au cœur de la ville de Saint-Denis en région parisienne. Prune Nourry est ce matin l'invité de Muriel Malouf.
Bonjour Prune Nourry.
Bonjour.
Vénus, c'est le titre de votre exposition à la Galerie Templon. C'est une série de sculptures de femmes. Dans quoi ces sculptures prennent leur source ?
En 2024, on m'a proposé un superbe projet qui est dans la gare de Saint-Denis-Pleyel et de pouvoir créer une œuvre permanente dans cette gare. Et j'ai 2 ans devant moi jusqu'à 2026 et je voulais vraiment m'ancrer à Saint-Denis pour mieux connaître la ville, qui est pleine d'une richesse culturelle et d'une diversité incroyable. Il y a plus de 130 cultures là-bas. Et c'était vraiment l'idée de partir de cette idée de terre. Comment est-ce qu'on peut être attaché à une terre, Saint-Denis, et en même temps à plein de terres? On vient tous de la même terre. On est aussi issus, peut-être aussi avec les mythes, les différents mythes, que ce soit Yoruba ou les trois religions monothéistes. Cette idée qu'on vient tous de l'argile, de la terre, et qu'en même temps, cette terre peut avoir plein de formes, de couleurs, de matériaux. Et donc là, à l'intérieur de cette exposition, on voit de la terre rouge, de la terre ocre, de la terre marron, de la terre blanche. Et ces Vénus sont en fait inspirées de notre passé d'humain, mais en même temps, j'ai voulu aussi m'ancrer de manière plus à l'échelle micro, en plus de ce projet collectif pour la gare de Saint-Denis-Pleyel. Et donc j'ai travaillé avec une association en particulier, qui est la Maison des Femmes, que Rada Atem a initiée il y a 10 ans, mais qui a donné plus de 30 Maisons des Femmes aujourd'hui à travers la France.
Et alors, quand on regarde vos sculptures, ce sont des femmes loin de l'esthétique assignée à la femme. Ce sont des femmes dont les seins pendent avec des ventres proéminents, des corps qui racontent des histoires. Est-ce que ces sculptures sont aussi inspirées de vrais modèles ?
La Maison des Femmes m'a ouvert ses portes pour rencontrer à travers leurs ateliers de danse, d'alphabétisation, de karaté, des femmes à qui je pouvais proposer d'être les modèles pendant des ateliers de sculpture. Et 8 d'entre elles ont accepté, au-delà de leurs tabous culturels, sociaux, mais aussi de leurs traumas corporels. Et elles ont posé pour moi et j'ai pu réaliser leurs portraits assez abstrait, anonyme, à travers à la fois l'inspiration des Vénus préhistoriques, mais aussi leur corps, mais aussi en fait leurs mots. Et on passait des heures ensemble et on se racontait plein de choses. Et on en a fait aussi un film pour pouvoir montrer dans l'exposition aussi comme une fenêtre sur l'intimité de l'atelier, aussi pour montrer l'unicité de chacune de ces histoires, mais aussi leur aspect universel. Parce que chacune de ces femmes, elles avaient entre 30 et 70 ans et elles venaient d'endroits complètement différents, Biélorussie, Algérie, Congo, Sicile, France. Et du coup, de pouvoir aussi montrer ce qui nous relie toutes était important pour moi. Et on a en fait sculpté ensemble presque, parce qu'on s'arrêtait parfois, on regardait ensemble, elles touchaient aussi la terre, elles me parlaient de leurs cicatrices, qu'on pouvait rajouter dans la terre. Et c'est vraiment, chaque sculpture devait pour moi, voilà, à la fin de nos séances, leur parler avant tout à elles. Et c'est un mot que plusieurs d'entre elles ont utilisé. Et moi, j'avais l'impression d'être en train de construire une sculpture. Et en fait, elle me disait, bah, en fait, t'es en train de nous reconstruire.
Merci, Prune Nourrie.
Merci.
Et merci à vous, Muriel Malouf. Vénus, une exposition à retrouver jusqu'au 1er mars à la Galerie Templon de Paris.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Le Conseil Santé sur RFI avec Caroline Paré à 5h24, heure de Paris. Caroline reçoit aujourd'hui le docteur Jean-Oscar Macasso, expert en psychopathologie clinique et psychanalyse, pour évoquer un syndrome bien connu des expatriés, le mal du pays.
Jean-Oscar Macasso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychopathologie clinique et psychanalyste. Comment définir le mal du pays?
Mais le mal du pays, moi, je l'ai défini comme vraiment une nostalgie, quelque chose pour lequel, depuis qu'on part de chez soi, ça ne peut pas quitter dans l'esprit, normalement, de la personne. Hein. Et donc, nous tous, je pense que nous traînons ce mal du pays au quotidien,
À tout moment, est-ce qu'il y a des symptômes particuliers qui permettent de l'identifier, ce mal du pays?
Alors, parfois, c'est un peu difficile, parce que ça peut être tellement diversifié. Mais le plus souvent, la plupart normalement, des patients disent « Mais écoutez, il y a le pays qui me manque. » Parfois dans leur discours. Et en même temps, ils disent « Oui, ça fait longtemps, je ne suis pas rentré au pays. » Et d'autres qui passent tellement le temps au téléphone, tellement qu'ils ne peuvent pas s'investir normalement, dans le pays d'accueil. Et c'est ça qui fait que par moment, on peut commencer à s'interroger « Qu'est-ce qui se passe par... ?» Et il y a l'isolement aussi. Surtout souvent la langue. On leur dit, est-ce que vous avez appris la langue du pays? Ils disent, mais non. Et pourtant, ils sont là depuis 20 ans.
Est-ce que ça peut se traduire aussi par des douleurs, des symptômes physiques?
Ça peut se traduire, mais ce sont des pathologies qui sont parfois rares. Mais ce sont des pathologies somatiques qui se cachent derrière normalement tous ces fonctionnements du pays.
Merci Jean-Oscar Macasso. Vous êtes aussi le cofondateur de l'association Maison Sunjata Keita, centre de médiation culturelle et d'aide psychologique aux familles migrantes. Aujourd'hui dans Priorité Santé, émission Questions de femmes consacrée à la santé cardiaque au féminin, AVC, infarctus du myocarde, hypertension artérielle. Un cardiologue répond aux questions des auditrices. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et le Conseil Santé de Caroline Paré, bien sûr, à retrouver sur rfi.fr. Et puis, comme promis, on termine cette édition en musique. Le choix de la playlist RFI s'arrête ce vendredi sur le chanteur camerounais Tsipanchak, ou plutôt Chaco the Great, comme il faut désormais l'appeler, un nouveau nom qui s'accompagne d'un nouveau single romantique en collaboration avec Minkata, une chanson d'amour pour un nouveau départ qu'on écoute tout de suite. Everything I do is nothing, oh la la, mommy, you're worth it. Kanji, go kill me with the way you work it.
Magic.
You make me leak my blood, oh
my blood.
Now with it in my heart, oh
conjure.
I don't fall in love, oh
in love.
Girl, I could follow you like cutter. You make me leak my blood, oh
my blood.
Now with it in my heart, oh
conjure.
I don't fall in love. Girl, I could follow you like a thought.
I wanna kiss you until the sun down. Baby, come around with me. You got a man now. I wanna kiss you until the sun down. Baby, come around with me. You got a man now. Romantic, romantic. Baby, you're a man for me. Romantic, oh. Romantic, romantic. Maybe you're a man for me. Romantic, romantic, oh.
Romantique, Chaco the Great avec Minkata. Toute la playlist RFI, bien sûr, à retrouver sur RFI Musique. Et c'est donc tout en musique que s'achève cette édition préparée ce matin par Gaëtan Plenet, réalisée par Adrien Toureau. Restez avec nous dans un instant, le retour de l'actualité africaine, la situation en République démocratique du Congo à la une.
De voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Sur le continent africain, 6 filles sur 10 décrochent avant le bac. L'accès des filles à l'éducation reste un défi majeur. Alors quelles sont les initiatives pour favoriser l'égalité des chances à l'école?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Cette semaine, je reçois la lauréate du prix Strega 2024, l'équivalent italien du prix Goncourt, l'écrivaine Donatella Di Pietrantonio. Son roman récompensé s'intitule « L'âge fragile », le portrait d'une femme qui, à la cinquantaine, décide de reprendre sa vie en main.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.